Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense qu'aujourd'hui, on va pas se permettre de tuer l'ours avant de faire le championnat.
Je pense qu'on va pas brûler la peau de l'ours hein, avant de l'avoir vendu.
C'est une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs. Vous le savez, l'After est en direct 7 jours sur 7, même pendant cette période sans foot qui dure et qui va encore durer longtemps. L'After uniquement sur RMC à la radio, l'After l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Daniel Riolo est là, de retour en studio depuis hier. Salut Daniel.
Salut les amis.
Ça va, t'as repris tes bases, là ça y est, t'es de nouveau bien.
C'est encore un peu bizarre, c'est comme si la vie normale avait repris, mais comme on sait qu'elle n'a pas vraiment repris, les sensations sont toujours un petit peu...
Alors parle bien dans le micro, en face du micro, rapproche le micro de ta bouche.
Il va falloir arrêter ça, c'est une histoire de micro tous les soirs maintenant.
Ah oui, bah,
c'est écoute... ça, je retourne chez moi, je refais l'émission à la maison.
Jérôme Bretagne, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Voilà, Jérôme, pas de problème de micro.
Non,
parfaitement bah... placé, nickel.
Moi, contrairement à...
position du corps.
Autant hier, c'est vrai que je ne pouvais pas aller contre, parce que j'avais même ressenti que lui, surtout sur la première heure. Autant là...
Ouais,
je suis venu en fin d'après-midi parce que j'avais rendez-vous et donc voilà, déjà j'ai repris mes repères et là voilà, franchement c'est mais je suis content que Daniel dise ça. Ça veut dire que il comprend aussi les footeux qui sont un peu
qui changent de contexte quoi.
Ben ouais, quand ils comprennent, ça fait bizarre.
Elle est restée chez elle, mais elle sera bientôt de retour également avec toi en studio. Laure Le Payeur est là ce soir. Salut Laure.
Salut Gilbert. Bonsoir à tous.
Salut Laure.
Alors, je précise que Julien Cazard sera là tout à l'heure pour la deuxième manche de la grande finale du Grand Tournoi entre Jérôme Rotten et Jonathan McCarthy.
C'est une boucherie hein, par rapport à ce qui s'est passé hier.
Jérôme mène 1-0.
Alors
ah, exactement. Là,
j'espère pour Jonathan, ça ne fait pas 3-7 secs.
Oh, mais là, le père McCarthy, il est chaud là. Je peux dire qu'il est vexé.
Là, mais en fait...
là, c'est Marseille, c'est à domicile aujourd'hui.
Ouais. Et puis, mais bon, même sur son terrain, tu sais, j'ai souvent brillé au Vélodrome. Hein.
T'as perdu quand même au Vélodrome aussi.
J'ai perdu, mais j'ai plus gagné que perdu. Tu sais, c'est fou quand même hein, d'avoir cette stat-là.
Bah, écoute.
Ah oui, parce qu'avec Monaco, avec 3, j'ai même réussi à gagner avec 3, t'imagines, au Vélodrome. Donc,
bon. L'événement ce soir dans l'After, bah justement, c'est Marseille. La situation de l'OM. Florent Germain a rencontré André Villas-Boas aujourd'hui. Florent qui sera avec nous dans quelques petites secondes. On entendra Villas-Boas, on décryptera ce qu'il a dit, bien sûr. En plus, Jacques-Henri Hérault, lui, a vu les supporters. Donc là aussi, pas mal de messages qui ont été passés. C'est très intéressant hein, ce qui s'est passé donc ces dernières heures à Marseille. Et supporters de l'OM, on vous attend au 32-16 pour analyser tout ça. Vous allez apprendre pas mal de choses ce soir. Et puis, on parlera également de Nantes. Christian Gourcuff, lui aussi, s'est exprimé. Il donne sa vision de la crise actuelle, il parle de l'avenir du FC Nantes, des Canaries. Ça se dit de moins en moins, les Canaries. Hein.
Mais ça se dit encore. Et l'interview, j'ai trouvé très intéressante.
Bon, on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Et puis à 23h, la suite de nos débats tactiques. Ce soir, un spécial coup de pied arrêté. Est-ce qu'un corner est une action de but? Julien Beaumont va vous répondre de façon très claire.
Intérêt à déchirer, parce que là, il y a un spécialiste autour de la table.
Alors toi aussi, parle dans le micro.
Bah, j'ai dit, il n'a pas intérêt à se déchirer, parce qu'il y a un spécialiste autour de la table.
Des corners.
Eh oui.
Très bien. Tu parles de l'or?
Bah non, Laure, non, je pense pas qu'elle allait...
Moi, j'étais plutôt à la réception. Plutôt
ouais,
la
voilà,
réception.
C'est ça, elle allait au charbon, Laure.
Ah ouais.
Mettez des coups de genoux.
Donc, ce sera à 23h. Pour tous ces sujets, le 32-16 est ouvert, bien sûr. Le hashtag RMC Live, Direct Studio sur nos applis. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Bien sûr, on les relaiera. Allez, Marseille, on y va tout de suite. Florent Germain est avec nous. Florent, bonsoir.
Salut Gilbert, salut Daniel, salut Jérôme.
Salut Flo.
Et salut Laure, j'aurais dû commencer par toi, je m'en excuse.
Oui, alors, tu sais, on n'a tellement pas l'habitude d'avoir une fille dans l'after qu'on en perd nos réflexes.
Ouais, exactement.
Nos réflexes de la vie de tous les jours.
Alors, les sudistes.
alors, on va au sud.
Bon, dis-moi tout, Gilbert.
Alors, démarrons par Villas-Boas si tu veux bien, et après on parlera de Jacques-Henri Hérault. Donc, tu as vu Villas-Boas?
Non. On l'a eu au téléphone.
Ah oui, c'est
parce que on est encore confiné.
C'est vrai, pardon, pour être précis. Tu as dialogué avec Villas-Boas.
Hein. Exactement.
Mais il est, physiquement, il est où là?
Il est au Portugal encore.
Il est au Portugal, ouais.
Il est au Portugal. Et vous avez parlé un peu de tous les sujets, alors je te laisse un peu dérouler, on va entendre quelques extraits de l'interview et ensuite on analysera ça ensemble.
Juste avant Flo, ouais, c'était Daniel. Quoi le contexte? C'est une demande de notre part d'interview avec Villas-Boas ou c'est,
en
ou
fait,
c'est l'OM
non, c'est ça,
besoin,
non. Non, pas du tout.
Jacques-Henri Hérault, l'entraîneur, c'était le moment de faire un bilan, qu'est-ce qui s'est passé?
Non,
écoute, on s'est concerté avec Mohamed en fin de semaine. On a eu le nez, on s'est dit, il n'a pas parlé depuis longtemps. La qualif en Ligue des Champions est officielle. Ouais. On ne l'entend pas. Il faut qu'il parle, il faut qu'il envoie un message aux supporters, il faut qu'on l'entende. Et effectivement, quand on a contacté l'OM, on a senti qu'il y avait une petite porte ouverte. Et puis après, dans le week-end, il y a eu ce message que lui a envoyé, tu sais, sur Instagram, en faisant une lettre assez émouvante, qui a un peu perturbé aussi les supporters marseillais, parce que certains y voyaient une lettre d'adieu. Donc, ça nous a encore plus donné d'arguments pour qu'il clarifie sa position, si possible. Enfin, en tout cas, qu'il accorde sa première interview depuis la fin de saison. Il avait déjà parlé juste du confinement un peu avec Mohamed il y a une quinzaine de jours, trois semaines, pour parler de comment il vivait la situation depuis le Portugal. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé ballon avec lui depuis la fin de saison, enfin depuis que le championnat était arrêté. Donc non, on a un petit peu insisté. Et puis la com de l'OM a joué le jeu. C'était pas forcément une volonté au départ de l'OM qui parle. Il n'y a pas eu de, ça n'a pas été orchestré du tout par le club. Il a fallu négocier. On a demandé. L'OM a été très fair-play dans l'histoire en nous donnant entre guillemets l'exclusivité. Donc on a pu parler avec André Villas-Boas. On avait une demi-heure au téléphone.
L'OM sait quels sont les journalistes qui comptent.
Peut-être, ou les médias qui comptent. Donc RMC pour le coup a été choisi et on remercie l'OM. Donc on l'a eu une bonne demi-heure au téléphone sur les coups de 14h. Au départ c'était 14h, finalement 14h30. On a eu 35 minutes au final d'interview. Et évidemment, alors c'était pas le but unique de l'interview, mais vous vous doutez bien que la question qui brûle les lèvres, c'était de savoir s'il avait pris une décision pour son avenir. On rappelle que André Villas-Boas est en fin de contrat dans un an. Il n'avait signé que 2 ans, qu'il a tenu quand même au long de la saison des propos qui étaient assez clairs, hein, à savoir son inquiétude en gros de ne pas être compétitif la saison prochaine en Ligue des Champions.
Écoutez, ça c'était un peu le credo de
beaucoup de joueurs
de toutes ces interviews. Et c'est toujours délicat à comprendre. Je sais jamais réellement comment envisager ces réponses-là, moi, parce que oui, je reste, mais à condition. C'est comment dire, est-ce que c'est positif ou négatif de dire ça? Parce que c'est bon, en gros, je reste s'il y a de l'oseille, si on est compétitif, ce que je peux comprendre pour un compétiteur. Et en même temps, c'est vraiment une sorte de, je sais pas si chantage, le mot est peut-être un petit peu fort,
un petit peu, quand même. Un coup de pression en tout cas.
Ouais, voilà, mais c'est difficile de mettre un coup de pression comme ça quand tu connais les difficultés économiques que le club rencontre. Donc comment on analyse ça? Comment le supporter de l'OM peut comprendre l'interview de Villas-Boas, qui est à la fois très positif, il est content d'être là, il a envie de continuer, il a bien travaillé pendant un an, il a redressé un club qui était pas bien. Et puis à la fin, on entend, je veux rester, je veux faire la Ligue des Champions, mais à condition.
Tiens, écoute-le justement, Daniel, parce que tout le monde ne l'a pas entendu, et c'est vrai qu'on a essayé de condenser là en 35-40 secondes la réponse à cette question, à savoir est-ce qu'il veut rester à l'OM. Écoutez André Villas-Boas.
Oui, mais dans certaines conditions structurelles qui sont importantes. Je dois comprendre plus ou moins les personnes qui sont là à mon côté, ça veut dire Randoni et Albert, sont toujours des personnes avec pouvoir ou non. Moi comme entraîneur et eux comme directeur sportif, on veut avoir le pouvoir pour exécuter les décisions. Je te dis sincèrement, je suis très bien à Marseille, j'ai pas envie de chercher des autres clubs ou des autres options. J'ai envie de faire évidemment la Ligue des Champions à Marseille. Mais je veux savoir plus ou moins à quel point on est dépendant économiquement, si on n'a pas les conditions de faire un bon travail, c'est pas la peine, je pense, tu sais.
Voilà, donc ça laisse évidemment un doute, hein. Si on n'a pas les conditions financières, c'est pas la peine. Donc en gros, il veut que Andoni Zubizarreta, Albert Valentin et lui aient un pouvoir fort en termes de décision sportive. Il veut donc connaître un petit peu plus la situation financière. Et en fait, ce qui n'est pas anodin, c'est qu'il devait y avoir, avant le confinement et la crise sanitaire, une réunion à la mi-mars entre justement tous ces hommes-là, hein, notamment Villas-Boas, Zubizarreta et Jacques Henriero, pour faire un point très clair sur la situation économique. En fait, le coach Villas-Boas, il a besoin d'être assuré, un, sur la pression du fair play financier, sur l'engagement de l'OM en Ligue des Champions et sur la capacité qu'aura Marseille à garder certains joueurs. On l'écoutera un petit peu plus tard, notamment sur le mercato.
Excuse-moi, c'est néanmoins toujours très flou parce que la situation du fair play financier, bah, malheureusement, ça dépend pas de l'OM.
Savoir
s'ils peuvent garder les joueurs. Bah, garder les joueurs. De la même façon, ça dépend beaucoup de la situation financière. Si il décidait que la situation n'était pas bonne pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de bosser ou il profite d'une opportunité qui s'offre à lui? Est-ce que des opportunités s'offrent à lui? Est-ce qu'il reste à l'OM par défaut s'il n'y a pas une offre qui est satisfaisante pour lui? Encore une fois, gros flou, je n'arrive pas à comprendre exactement ce que veut dire l'interview, quoi.
Sportivement,
je pense qu'il aura, en tout cas, il aura gain de cause, je pense, sur le fait de travailler sur le plan sportif avec Zubizarreta et Valentin. Je pense que ça, pour le coup, il aura cette opportunité de travailler pour le recrutement et d'avoir cette ambition de recruter des joueurs qu'il a envie d'incorporer dans son effectif. Le problème, c'est tant qu'il n'aura pas la réponse économique, je vois pas comment il va avancer. Et aujourd'hui, économiquement, quand même, j'ai du mal à voir quand même Marseille réussir à stabiliser son effectif parce que lui, clairement, il a exposé qu'il avait envie de garder cette ossature d'équipe qu'il a construit cette saison et qu'il voulait des renforts de poids pour pouvoir figurer, en tout cas faire bonne figure.
Et renforts de poids alors avec quel
exactement. Ben, je sais, vu qu'il n'y a pas d'argent, ça me paraît compliqué.
T'as vu comme ça a été dur de faire venir Rongier l'été dernier?
Non, mais
Rongier, c'était impossible. Non, mais quasi.
La chose, moi, qui me contrarie là-dessus, c'est encore une fois, et tout en revient au président, en fait. Président et actionnaire, hein, parce que l'actionnaire, c'est pareil. Dire comment tu peux laisser dans le flou ton entraîneur, comme ça, alors que la saison est finie, qu'on est début mai, même pas, tu t'essayes de l'avoir au téléphone, de lui expliquer, ou d'essayer qu'il revienne sur Marseille pour se voir, pour faire le point, pour lui expliquer la situation économique. Alors, en effet, je pense que lui, malheureusement, quand j'entends son interview à Villas-Boas, je me dis qu'en fait, il est dans le flou, comme les joueurs qui sont en fin de contrat, on en parlera tout à l'heure, qui arrivent en fin de contrat l'année prochaine, qui ont aucun signe de vie de la part de leur club. Tout le monde leur dit, il y a des problèmes économiques, il va falloir vendre, et ceci, est-ce que le fair play financier, ok, d'accord, on va mettre ça de côté, parce que le fair play financier, on ne sait pas ce qu'il adviendra pour l'OM, et ça, même l'actionnaire, ils ne savent pas aujourd'hui. Mais après, le sportif, le plan économique, ils le savent, du moins, ils sont au courant des chiffres. D'un moment, tu vas voir ton entraîneur et tu lui dis, écoute, on a la possibilité de garder l'effectif, il va falloir qu'on vende un tel et un tel. Après, à toi de prendre la décision, mais laisse pas l'entraîneur dans le flou comme ça, parce que ce genre d'interview, il l'a déjà fait. Si tu reviens, la dernière, c'était il y a quoi, Flo? C'était il y a deux, trois mois.
C'était au mois de février, janvier-février, quand il a commencé à.
Moi, juste quand même, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que quand il dit ça, et d'ailleurs, c'est marrant parce que Stéphane a fait la même chose à Rennes aujourd'hui. Stéphane, il a dit, moi, je prépare la Ligue des Champions avec un budget d'Europa League. Ça va un peu la même démarche que ce que fait Villas-Boas.
Les mecs doivent arrêter de parler comme ça. Ils savent qu'il n'y a pas d'oseille dans les clubs.
Oui, mais...
Bah, il n'y a pas d'oseille. De l'oseille, il y en a une tonne, en fait. C'est ça le grand paradoxe. C'est que les budgets sont importants, les masses salariales sont importantes. Et à l'arrivée, les mecs te disent, bah, on peut pas travailler, on peut pas ceci. Ça veut dire que l'argent est utilisé bizarrement.
Alors, Villas-Boas, je pense qu'il est en train de faire il fait un sans faute, Florent, je pense que tu seras d'accord avec moi par rapport aux supporters. Les messages récents, ce qu'il fait.
Tu trouves qu'aujourd'hui, c'est forcément sans faute?
Ah, bah oui. Parce qu'en fait, là, qu'est-ce qu'il fait? Il met la pression sur.
Il met la balle dans le camp de Jacquin et des actionnaires.
Les supporters, ils kiffent tous Villas-Boas. Ils disent, attends, il a raison, Villas-Boas. Il a raison de mettre la pression. Nous aussi, on veut une équipe en Ligue des Champions et tout. Voilà. Tu vois, donc, Villas-Boas, quelque part.
Je pense que tu prends les supporters pour plus cons qu'ils, je comprends pas en fait.
On va les avoir les supporters dans quelques instants. Maintenant, moi je serai Jacques-Henri Hérault pour finir.
Non mais c'est comme si le supporter est l'enfant.
Tu dis attends, t'es quatre supérieurs de ma boîte, t'es un élément très important. Non. Sois solidaire de tes dirigeants.
Non, excuse-moi.
C'est comme si
Gilbert permet.
Attends.
Bah alors.
Non mais c'est nul ce que tu dis.
Eh bah non, c'est pas nul ce que tu dis.
Excuse-moi. C'est comme si, vous permettez une image très 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 simple que tout le monde va comprendre. Le supporter, c'est l'enfant. Il dit non mais moi il met la pression sur Villas-Boas, c'est la maman. Et il dit bah non, on va l'acheter le nouveau jouet. Mets la pression sur papa. Donc c'est comme si maman elle met la pression sur papa, mais elle sait pas, mais papa il a pas l'oseille.
t'ai pas dit
c'est,
ça.
Où est-ce que c'est intelligent?
Je t'ai pas dit ça. Moi, ce que je t'ai dit, c'est que c'est maman qui dit à l'enfant, on va regarder si on peut avoir le cadeau pour Noël, je vais en parler avec papa.
Ouais, mais c'est pas sûr. Maman, c'est très bien que papa, il a pas l'oseille. C'est la même caisse, non?
Mais c'est pas sûr. Donc, du coup, qui c'est qui a la pression? Bah, c'est papa.
Ah oui, parce que toi, tu penses que Village Boas, il sait,
Il est bien au courant que son équipe a des problèmes, qu'ils ont eu du mal à avoir Rongier l'été dernier, que ça a représenté un transfert limite astronomique, que le club, va passer devant, que le fair play financier peut lui tomber sur le coin du nez au mois de juin.
Non, mais d'accord.
Et il est pas
bête. Et papa, il va dire à maman, t'es bien gentil d'avoir dit ça, pourquoi t'aurais mieux fait de te taire?
Et puis, maman peut toujours aller voir papa en disant, dis donc, ça fait 3 ans que tu gères le club à l'envers et qu'il n'y a plus une thune dans les caisses. Bah, l'autre, il va dire, oui, tape-moi dessus, mais je peux plus rien faire.
Ah, non, mais si.
Et voilà.
Mais toi, Daniel, tu considères que André Villas-Boas, du coup, ne doit parler que pour dire, je reste ou je pars, quoi.
Exactement.
Bah, moi, je suis pas d'accord avec toi, je suis désolé.
Déjà parce que
on l'a pas appelé avec Mohamed, juste une minute pour qu'il nous dise, au fait, coach, est-ce que vous restez? C'est aussi nous qui mettons en valeur ce passage-là, et après, on va en écouter d'autres.
Oui, après, quand il te dit, il sait ce qu'il dit.
Non, mais bien sûr, il sait ce qu'il dit. Il sait qu'il va être questionné là-dessus, hein. Il s'y attendait, il n'y a pas de problème. Il sait que ce sera repris. Mais, pourquoi, après 2 mois et demi, ne pas expliquer clairement aux supporters marseillais, écoutez, voilà la situation, je suis toujours pas encore fixé sur les ambitions de l'OM, j'ai besoin de savoir maintenant qu'on est qualifié en Ligue des Champions, au moins on y voit clair, parce que avant, qu'on le veuille ou non, l'OM n'était pas encore officiellement qualifié, donc il n'avait pas eu l'occasion d'affirmer avec force, écoutez, maintenant je veux surtout ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions, ça a été son discours. Moi, je le trouve honnête. On a encore affaire
à un... pas qu'il est pas honnête,
mais on a encore affaire Daniel a un coach qui est sincère et qui livre ses préoccupations. Le fait qu'il y ait une réunion lundi, il arrive à Marseille lundi pour rencontrer le président. Ils vont refaire un point et sûrement qu'il s'exprimera après un peu plus tard.
Un coup de pression, en fait, c'est ça.
Ce que je veux dire.
Maintenant, chaque élan de nécessité est considéré, Daniel, comme un coup de pression.
Je ne doute pas son honnêteté, mais c'est un petit peu comme si le club de foot n'était pas une unité, mais un club divisé en 3 parties. Joueur, entraîneur, dirigeant. Moi, j'ai dans l'idée, mais je me trompe peut-être, que le club est une unité. Que donc, le joueur qui dit « Ah bah moi, je reste, mais si on a l'ambition, si machin... » Déjà, ça, pour moi, c'est très, très bizarre.
C'est un sondage du vestiaire, d'ailleurs.
Si t'as envie de continuer, fais le point de tes ambitions avec ton agent et tout, mais il ne va pas nous casser les couilles à dire ça devant tout le monde. L'entraîneur, deuxième partie, il sait très bien quelle est la situation du club. Il est lié au directeur sportif puisqu'il le kiffe et il dit « moi, je veux bosser avec lui et tout ». Si tu viens pour dire « ouais, mais je dois faire le point, peut-être que je reste pas s'il n'y a pas d'oseille et si on peut pas recruter ». Mais attends, il y a une unité ou il n'y a pas d'unité, ou c'est chacun tire la couverture à lui? Pour qu'ensuite, si jamais il s'en va en juin, et puis dire « non, mais je m'en vais parce que franchement, on va avoir une équipe de merde, on va faire 4e de la poule en Ligue des Champions ». Bah, pardon, ça ressemble à de la lâcheté, ça.
Alors, attendez,
moi je peux pas comprendre. N'exonère pas de ses responsabilités les dirigeants qui ont mis la situation, qui ont mis le club dans cette situation-là, financièrement. Mais ça provoquera peut-être chez les supporters la réaction suivante. Villas-Boas s'est barré parce que machin a mal géré.
Bon, on va voir. Loïc est avec nous.
Ok, 32 oui, c'est vrai.
Mais ouais, ils ont pas attendu que André Villas-Boas s'exprime pour avoir ce sentiment-là, je te rassure.
Loïc, bonsoir.
Salut messieurs, salut Laure. Exactement, bonsoir. On a entendu que Villas-Boas a fait un dressing.
Mais d'accord, Loïc.
Mais bien sûr.
Hein, mais dans ces cas-là, tu peux aussi dire que le dirigeant, il a eu la bonne idée de prendre Villas-Boas, que c'est déjà grâce au choix du dirigeant de prendre Villas-Boas que le club retrouve la Ligue des Champions. Moi, je suis le premier à critiquer la gestion de l'OM, je l'ai dit 1000 fois. Tout le monde sait ce que j'ai dit sur le choix initial, la situation financière. Mais il faut être honnête et il faut tout dire. Et moi, la communication qui fait que chacun passe à son cul dans le football, ça m'agace profondément. Et là, moi, j'ai le sentiment que les joueurs, quand ils pensent d'abord à leur avenir avant le club, et c'est une monnaie courante désormais, c'est comme ça, ça me saoule. L'entraîneur qui dit ce qu'il a dit aujourd'hui, bah, si on n'a pas les moyens, en gros, c'est bon, si je pars pour être 4e de la poule, s'afficher, je me barre, eh ben, ça m'emmerde aussi.
La parole est à Loïc.
Mais forcément, parce qu'on est déjà dans une société individualiste. On le voit bien que tous les joueurs de Ligue 1, leur ambition, c'est d'aller jouer en Angleterre ou en Espagne.
Eh ben, je suis d'accord, Loïc.
Alors, sur Villas-Boas, Loïc, qu'est-ce que t'en penses?
Après, moi, je pense qu'il prépare sa sortie. Et mettre la pression en disant « je veux des joueurs pour avoir des résultats », c'est normal. Chaque entraîneur veut avoir des bons joueurs pour avoir les meilleurs résultats possibles. Après, il faut aussi que les joueurs qui sont déjà en place, ça fait 2 ans et demi à peu près qu'on a la même équipe, et on ne peut pas dire qu'ils aient toujours mérité de jouer la Ligue des Champions. Même si c'était Rudy Garcia l'entraîneur, les gars sur le terrain, c'était les mêmes. C'était les mêmes types qui faisaient pas les efforts, qui faisaient pas forcément les bons choix au bon moment, à se faire des bonnes passes, à jouer un collectif. Au même titre que, ben, on a le sentiment, nous les supporters, qu'il y a McCourt et Hero d'un côté, et Zubizarreta et Villas-Boas de l'autre.
Donc c'est pas normal, c'est pas un club uni.
C'est
un problème.
Donc, ouais, mais c'est pas le monde des bisounours, Daniel. On sait très bien, Loïc, que par exemple Villas-Boas, s'il a ce discours-là, c'est qu'il estime, faut expliquer, faut remonter un petit peu en arrière. Lui, il estime que avec des moyens très limités, il a réussi quelque chose de fort avec ce groupe, un effectif court et le qualifier en Ligue des Champions. Donc lui, son discours, il est de dire bon, écoutez, on a pendant un an fait le taf. On a eu des ambitions de Ligue des Champions que même les dirigeants n'osaient pas afficher parce que l'effectif était très court, traumatisé par une saison passée, etc., etc. Bref, un contexte où lui s'est mouillé et avec très peu de joueurs, il a réussi à mettre le club deuxième et pas deuxième à l'arrache, hein, deuxième depuis 6 mois quasiment. Donc lui, il estime que c'est presque un dû maintenant qu'on a fait le taf et qu'on est en Ligue des Champions 7 ans après. Faut le rappeler quand même, hein, ça fait quand même 6 saisons que l'OM n'y a pas participé, au moins qu'on soit pas ridicule. Et c'est vrai qu'il y a une unanimité dans le vestiaire aussi, avec beaucoup de joueurs, Payet, Mandanda, Rongier, qui sont exprimés et qui font bloc autour du coach pour dire, mais moi je trouve ça beau quelque part, parce que toi tu critiques ça, Daniel, mais moi je trouve que t'as un vestiaire qui est solidaire, qui a envie de croquer dans cette Ligue des Champions, et qu'on vende pas 3-4 joueurs, certes avec une réalité économique, et donc un équilibre à trouver.
C'est comme dans plein de sujets, ça c'est la foire aux bonnes intentions. Non, mais évidemment que je comprends. Mais si tu sais qu'au-dessus, il y a eu des problèmes et qu'il n'y a pas l'oseille, à quoi ça sert?
On est d'accord, mais ce que je veux dire, le plus dur dans le foot, et Flo te l'a dit, le plus dur dans le foot, c'est de créer une solidarité dans le vestiaire déjà. Je te parle dans le vestiaire.
Là sans l'oseille.
Non, mais ils l'ont créé cette année.
Ouais.
Entre les joueurs, entre l'entraîneur, le staff.
Il faut continuer parce qu'on ne peut pas faire autrement.
Oui, mais.
Il y a des clubs qui vont en Ligue des Champions avec 50 millions de budget. L'OM va y aller avec 150.
Mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est que.
Où est le problème?
En fait, ils ont créé ça. Mais Villas-Boas, lui, déjà, je pense qu'il voudrait être rassuré. Et il ne l'est pas parce que s'il parle comme ça, c'est qu'il ne
l'est
pas.
Il ne le sera pas.
Non, mais il pourrait être rassuré en disant écoute, on ne peut pas recruter Pierre-Paul Jacques parce qu'en effet, on n'a pas les moyens. Ouais. Mais par contre, on te donne, avec cette qualification Ligue des Champions, ce que ça va amener au club, ce que ça va amener aux joueurs qui sont là, on te donne la possibilité de garder cet effectif-là au moins encore un an pour voir ce que tu...
Ouais.
Peut-être que si tu lui parles comme ça, avec la solidarité qu'il y a dans le vestiaire, l'union qu'il y a dans...
Les dirigeants, ils vont faire le maximum, j'imagine.
Mais tu ne lui as pas dit. Tu ne lui as pas dit. Et je pense que, déjà, tu ne le dis pas à tes joueurs qui tu laisses... Parce que ça, je le sais, pour en avoir eu plus d'un au téléphone, hein, à Marseille. Je sais que les mecs, en fait, ils sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont aucune nouvelle de la part des dirigeants. Aucune.
D'ailleurs, Gilbert, on peut écouter Villas-Boas là, sur le mercato et ses inquiétudes, parce que ça rejoint totalement ce que dit à l'instant Jérôme. C'est pour ça que je me suis permis de te couper, Jérôme. C'est qu'en fait, on lui a posé la question sur ses inquiétudes et lui, son objectif premier qui est de garder ce groupe au maximum. Alors, il sait qu'il faudra peut-être vendre un ou deux joueurs pour renflouer un petit peu les caisses. Mais lui, il est inquiet d'une chose, c'est que beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat en juin 2021 n'ont aucune nouvelle des dirigeants. Et là, André Villas-Boas nous l'a confié, ça le préoccupe.
Oui, mais maintenant, le problème est qu'on se trouve dans une position faible, ça veut dire d'un point de vue économique, pour le niveau. Il va falloir avoir des courage de la part des joueurs aussi. Ça veut dire choisir entre être libre ou donner quelque chose à l'OM ou accepter la rénovation en connaissant la situation économique du club maintenant. Évidemment, les joueurs sont libres. C'est vrai que les joueurs ne sont pas naïfs aussi et sont capables de penser à ça. La continuité de notre groupe est aussi importante parce que si on n'est déjà pas un gros effectif, ça veut dire qu'on doit retenir les joueurs qu'on a.
Voilà, il dit les choses, hein, malgré tout. Hein, il dit les choses avec sincérité, très clairement, en disant, écoutez, moi j'ai un groupe qui a besoin de visibilité. On peut pas arriver comme ça sur une saison avec des joueurs importants, parce que Thauvin en fait partie notamment, qui sont en fin de contrat.
Non, mais t'as raison,
Flo. Mais Flo, justement, comment c'est possible qu'un club comme Marseille arrive avec des joueurs qui sont quand même importants pour l'effectif, Thauvin, Mandanda, même Amavi qui a bien rebondi cette saison. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. Comment un club comme Marseille il peut arriver dans cette situation? D'autant plus qu'ils ont des problèmes économiques. Ça veut dire que peut-être en fin de saison, si tu n'as pas renouvelé ces contrats, tu vas encore perdre plus d'argent. Parce que tu ne pourras même plus rentrer d'argent dans tes caisses parce que tu n'auras même pas de quoi, tu les auras même pas vendus et tu n'auras pas d'argent qui va rentrer. C'est une situation économique
mais ça,
qui
alors, peut être tu encore peux plus catastrophique. Tu peux le comprendre, si, mais le tout, c'est de l'expliquer. Pourquoi tu le caches aux joueurs? Pourquoi tu ne leur dis pas? Parce que Villas-Boas, il a raison. Ce que je veux dire, c'est que d'accord, même si demain, tu lui dis... Et ils vont se voir là prochainement. Tu lui dis on va garder tout l'effectif. Ok, mais on va pas renouveler les. Donc les mecs vont arriver en fin de contrat. Je te parlais de solidarité dans le vestiaire et tout ça. Et on parlait d'individualisme dans le foot qui existe. Hein. Je vais pas te dire que ça n'existe pas. Mais quand tu t'entends bien, quand il y a un groupe qui vit bien, comme c'est le cas de Marseille, je pense que c'est plus facile de faire passer le collectif avant les cas individuels. Mais le problème, c'est que la saison va commencer, la Ligue des Champions va arriver. On ne sait pas ce qu'il adviendra de la Ligue des Champions, si Marseille arrivera à être dans les clous pour se qualifier, s'ils font un ou deux premiers bons matchs. Mais les mecs, ils sont en fin de contrat. Mais ils vont penser qu'à leur gueule. Et là, le collectif, paf, il va exploser parce que t'en as pas qu'un qui est en fin de contrat. T'en as quatre ou cinq. Et ça, c'est problématique aussi. Et Villas-Boas, il le sait avec l'expérience qu'il a. Donc tout ça, il faut vraiment qu'il se pose et qu'il arrive à régler. Et c'est un problème de communication, encore une fois.
Loïc, merci en tout cas.
Attends, juste 30 secondes, si je peux rebondir sur ce que
disait. Alors non, c'est ce qu'on va faire. Regarde, tu restes avec nous. Parce qu'on a une petite pause obligatoire, hein, et hop, on revient dans quelques secondes et on continue le débat. On va aussi parler de Villas-Boas qui évoque la Ligue des Champions et de ce qu'a fait Héro avec les supporters ces dernières heures avec Florent. L'OM continue donc au programme de l'After tout de suite.
RMC,
l'After Foot,
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit avec Laure Lepailleur, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, Florent Germain est avec nous, on parle de Marseille bien sûr après l'interview du jour de Villas-Boas réalisée par Florent. Loïc, tu voulais poser une question ou faire une remarque là après notre
voilà, débat. Vas-y. Exactement, suite à ce que disait Laure il y a quelques instants, le problème dans ce club, un des problèmes de ce club récurrent, c'est qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. On a eu la même chose avec des joueurs en fin de contrat comme Gignac, Nkoulou, Ayou, on les a laissés partir pour zéro parce qu'on n'a pas su gérer les contrats et ainsi de suite. Et on n'apprend pas des erreurs. Il y a déjà 7-8 ans, on a passé 2 ans avec un seul avant-centre parce qu'on n'avait pas prolongé Gignac et qu'on n'avait pas revendu.
Mais c'était pas la même direction. Toujours.
Mais oui, mais le problème, mais justement, tu apprends normalement des erreurs. Tu peux pas laisser des joueurs à bankable à un an de leur fin de contrat et rien leur dire. C'est pas normal. Donc, tant qu'on réglera pas ce type de problème, et comme tu dis, ça risque de mettre en péril l'unité du club, parce que de l'équipe en tout cas et de l'effectif, parce que mec qui va peut-être ici derniers mois penser qu'à sa poire, il fera peut-être plus la dernière passe, il va tenter la frappe un peu improbable, et tout le monde fera à volo quoi.
Non, puis Loïc, t'as raison d'insister sur le fait que, en plus dans ces joueurs-là, je suis désolé, mais t'as des mecs quand même qui ont mis en avant, qui aiment ce club, bordel, Mandanda. Thauvin, rien que ces deux-là déjà.
Je parle de Lopez, à ma vie, Germain.
Pour rebondir sur ce que dit Loïc, moi ce qui me dérange un petit peu dans ce club et ce qu'on le voit un petit peu depuis ces dernières années, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'anticipation des choses. Et quand, par exemple, on entend aussi Héro s'exprimer aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est surtout tout le temps dans une gestion de crise, dans une gestion à court terme, sans anticipation de l'avenir. Quand il dit aux supporters, ben, c'est pas grave, on n'est pas inquiété par le super play financier, on jouera bien la Coupe d'Europe en 2020-2021. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2021-2022 si économiquement tu t'es effondré? Enfin, je pense que tu peux pas tenir ce genre de discours dans un club. Tu dois forcément être toujours dans l'anticipation aussi. Et par exemple, le fait de renouveler ses contrats, pour moi, c'est être dans l'anticipation. Comment on est amené à en parler maintenant? Ils auraient dû déjà en parler il y a 6 mois.
Ce genre de choses se voit dans beaucoup de clubs. Hein, quand on le disait même au PSG de certains joueurs qui risquent de se retrouver dans des situations compliquées. Oui, c'est ce qui s'appelle la gestion de ce côté-là, qui a eu des manques à l'OM, ça on le sait depuis longtemps.
Toutes les limites des présidents qui malheureusement ne connaissent pas grand-chose au foot quand ils arrivent dans les clubs.
Faire attention aussi parce que de plus en plus les joueurs s'accommodent de situations un petit peu floues pour pouvoir éventuellement se libérer au vu des circonstances.
Oui, mais bon, parfois là à Marseille c'est pas le cas, Daniel.
Alors Florent, dans
certains clubs peut-être. C'est
les gars, un dernier morceau d'interview de Villas-Boas que tu voulais nous faire écouter.
Oui, avec plaisir sur la Ligue des Champions parce que malgré tout, faut pas que l'OM que les Marseillais oublient, malgré ses soucis financiers, que ça fait 7 ans que Marseille n'a pas connu ce parfum de la Ligue des Champions. Ce coup-ci, c'est officiel. Et donc, on a évidemment, avec Mohamed, posé la question à André Villas-Boas. Quels objectifs, voilà, comment voyait-il cet OM la saison prochaine en Ligue des Champions? Écoutez le coach portugais. Et puis, c'est le seul moment depuis un an qu'à la fin, on pourrait presque deviner du Rudy Garcia dans la fin de l'interview. Écoutez de Villas-Boas.
Jouer cette compétition est déjà un prestige énorme, mais j'espère que toute cette nuit du Vélodrome vont être spéciales. De toute façon, la Ligue des Champions est une compétition intense avec des grands joueurs et beaucoup de grandes équipes et entraîneurs. Si tu tombes dans un groupe de la mort, comme on peut appeler comme ça, c'est fini, c'est la mort. Ça va dépendre toujours des groupes où tu peux tomber. Et maintenant, c'est une compétition pour profiter. C'est notre objectif. On a réussi, on est vice-champion de France. Bon, je m'excuse un peu, mais être vice-champion en France avec le Paris Saint-Germain, avec les conditions qu'ils ont, et comme être champion.
Voilà, s'il n'y avait pas Paris, bah oui, Marseille serait champion, ça, Rudy Garcia, parce que puis il a prononcé cette petite phrase-là.
C'est pas mal.
Mais dit avec le sourire et le petit accent, on a beaucoup aimé.
Passons maintenant à Jacques-Henri Hérault, parce que donc lui, il a rencontré les supporters qui ont été triés sur le volet. Donc raconte-nous ce qui s'est passé.
Bah écoute, oui, Jacques-Henri Hérault, en cette période de confinement, s'est donné un objectif, c'est de ne pas perdre le contact avec les supporters. Donc il y a déjà eu, il y a une dizaine de jours, une réunion en visioconférence, hein, tout ça est très moderne avec les groupes de supporters. Il l'a fait également avec les clients VIP. Et puis il y a des abonnés, il y a différents niveaux d'abonnés, on va le dire ainsi, avec des programmes de fidélité. Et donc là, il y a eu un tirage au sort pour ceux qui sont des abonnés OM Prime, on appelle ça. Il y en a entre 40 et 50 qui ont été tirés au sort.
C'est
et
quoi OM Prime?
OM Prime, c'est un
Amazon Prime.
Ouais, non, ouais, voilà, ben, c'est un peu ça. En fait,
c'est 24 heures.
C'est comme dans l'avion, toi.
Tu payes par mois une petite cotisation supplémentaire qui te permet d'avoir des avantages, des infos, des rendez-vous exclusifs et donc d'accord, notamment des possibilités de rencontrer ou d'échanger avec les dirigeants de l'OM. Donc là, c'était avec Jacques-Henri Hérault. Ça a duré une bonne heure et demie hier. Ils étaient une quarantaine. Tous à tour de rôle pouvaient poser leurs questions ou essayer de gratter un stage si possible puisqu'il y avait quelques jeunes supporters qui ont quand même sauté sur l'occasion pour dire « Non, mais vous prenez des stages. » Voilà. Et donc, Jacques-Henri Hérault, pour résumer, il annonce aux supporters que s'il devait y avoir une sanction de l'UEFA concernant une participation en Coupe d'Europe, ça impacterait uniquement la saison 2021-2022. Il dit pas que l'OM va être suspendu de Coupe d'Europe dans un an. Hein. Il dit si jamais éventuellement il devait y avoir une sanction de cette teneur, c'est pour la saison 2021-2022 et non la saison 2020-2021. Ce qui, si on en croit le président Hérault, est quand même une info importante, puisqu'il y avait un doute concernant la participation en Ligue des Champions. Dans l'interview de tout à l'heure d'André Villas-Boas, il a commencé même avec cette préoccupation-là, en se disant j'ai besoin d'être assuré sur la Ligue des Champions. Donc, au dire du président de l'OM, il n'y a pas de souci pour la saison prochaine. Et il a même dit voilà, c'est pas ce que j'ai lu, mais on va pas faire des communiqués dans les médias tous les jours pour démentir ce qu'on lit dans la presse. Mais vous inquiétez pas, Ligue des Champions, ok, pour la saison prochaine. Et puis, une bonne partie du discours, ça a aussi été pour demander de la reconnaissance des supporters envers Franck McCourt. Il a confirmé que Franck McCourt ne voulait plus mettre d'argent pour financer les pertes. Il a eu cette phrase, vous devez comprendre qu'un investisseur qui a autant investi et autant donné soit en droit de dire qu'il ne peut pas continuer à financer des pertes aussi importantes. Donc, changement de braquet confirmé du côté de l'OM.
Les pertes, elles sont dues à l'homme qui dirige quotidiennement.
J'ai pas dit le contraire. C'est vrai
que c'est marrant, c'est que c'est le mec qui te dit ça et celui qui est le fautif.
C'est celui qui a pris un pari effectivement sur les trois premières saisons de que l'OM injecte beaucoup d'argent pour essayer d'accrocher la Ligue des Champions plus tôt. Finalement, il y a eu du retard puisque dans le business plan, on va dire, de l'OM, ils auraient dû participer à la Ligue des Champions la saison dernière. Et donc maintenant, l'OM veut retrouver l'équilibre. Alors, Jacques-Henri Hérault a glissé aux supporters que lui, il espérait un équilibre financier dans les 2-3 ans qui viennent. Donc il a eu beaucoup de phrases, il a même dit je m'enflamme un peu sur le sujet, mais McCourt a eu un investissement sans précédent dans l'histoire du club. Et surtout, ne me dites pas qu'il y a des dettes. Il n'y a pas de dettes, il y a des pertes, c'est très différent. Donc voilà, il a pris la défense et sa robe d'avocat pour défendre un petit peu Franck McCourt. Et il a confirmé simplement que l'OM allait maintenant devoir encore plus se baser sur du trading pour essayer de viser l'équilibre, mais il a dit ce seront pas totalement les soldes, ce sera pas tout le monde dehors. Il a eu cette phrase là il a dit simplement que lui il allait devoir avoir un équilibre entre maintenir un niveau de performance élevé et faire face à des contraintes économiques réelles. Cette phrase là elle est clé, c'est tout le dilemme pour Jacques-Henri Hérault qui essaye de que l'OM soit compétitif et réponde à certaines ambitions. On l'a vu avec André Villas-Boas.
La vérité, Flo, c'est que
mais qu'il y a des soucis financiers et qu'il faut revenir à l'équilibre.
La vérité, c'est que tu peux quasiment anticiper. Alors, vous vous souvenez qu'au début de cette saison, je disais ne parlons pas de la suite, profitons du moment parce que l'OM est en train de se racheter. Bon, maintenant, il se trouve qu'elle est terminée et qu'on peut anticiper. Et je reviens à ce que parfois j'abordais un petit peu, mais c'est que la saison prochaine, on la connaît déjà. Quatrième de poule, pas de renfort.
Oh, Daniel, tu vas un peu vite. Quatrième de poule, ça dépend du tirage. Oui.
Mais ça sera une saison forcément compliquée.
Les fortes probabilités.
T'es jamais à l'abri de surprises
les
positives.
Fortes probabilités.
Et Daniel, on n'est pas à l'abri que la crise
peut
bouleverser le foot européen quand même, Daniel. Ça peut être une interrogation. André Villas-Boas en a parlé. Non. Il y a beaucoup de dirigeants qui en parlent.
Non, mais arrêtez de rêver avec ça.
Je pose une question. On connaît pas la santé du foot européen dans les mois qui viennent, je pense.
Je pense qu'on sera toujours les moins bien lotis quand même, puisqu'au départ, déjà, on avait des soucis. Donc l'OM est dans une situation très délicate. Donc déjà, ils vont être quatrième chapeau. Quatrième chapeau, ça peut vouloir dire quand même gros tirage.
D'accord. Est-ce que tu es sûr qu'ils sont quatrième? Ça dépend, ils peuvent être troisième chapeau. Ils ont été en finale de Coupe d'Europe il n'y a pas si longtemps.
Je te dis, moi, à 80%, à 90%, l'OM ne sort pas de la poule. À 80%, déjà, tu vas faire quatrième avec un calendrier plus chargé. Pas de renfort. Non seulement la Ligue des Champions sera une expérience, mais elle va faire rentrer de l'oseille dans les caisses, mais sportivement, elle va peu t'apporter et tu ne seras pas sur le podium l'année prochaine.
Ah, carrément. Ouais, tu m'as dit quand même.
Parce que tu as un effectif vieillissant.
Non, mais par contre,
tu as un effectif vieillissant, tu n'as pas de renfort et tu vas perdre des points dans la première partie de saison.
Boule de cristal, Daniel.
C'est un scénario classique qu'on a vu mille fois avec nos clubs.
Sur la saison.
Lille, ils ont eu des difficultés quand ils étaient sur les tableaux.
Lille nous fait dire que c'est chapeau 3, Marseille.
Ça change rien, mon raisonnement.
Oui, Laure, vas-y
Laure.
Pour revenir sur ce que dit Daniel, effectivement, quand on voit la saison de Lille, ils ont eu beaucoup de difficultés quand ils ont dû enchaîner tous les matchs en première partie de saison, et c'est une fois éliminés en Ligue des Champions qu'ils ont, entre guillemets, qu'ils sont ressaisis en Ligue 1, parce que forcément l'accumulation des matchs, l'inexpérience de la Ligue des Champions a forcément joué. Donc effectivement, moi, la saison où tu te qualifies, ça va être la plus compliquée. La plus compliquée pour Marseille à gérer.
Donc, plutôt d'accord, maintenant, Daniel.
Ce qui est marrant, c'est que Daniel, en fait, tu rejoins le discours de Villas-Boas que tu comprenais pas il y a 15 minutes, quoi. C'est-à-dire que.
Mais moi, je suis pas l'entraîneur de l'OM.
Alors, c'est un problème de com'.
Tu veux que je te dise ce que moi je fais si je suis Villas-Boas?
Pourquoi?
Tu veux que je te dise, vas-y, tu fais quoi? Villas-Boas,
en termes de com', tu fais quoi alors?
Moi, je suis Daniel Riolo, mais si tu veux, je peux jouer à Villas-Boas.
Tu fais quoi alors? Tu relis ton passé de journaliste et de consultant ou tu dis qu'il faut être sincère, dire les choses, accorder des interviews, avoir de la transparence? Moi, j'adore cette transparence.
Je vais te dire ce que je fais si je suis Villas-Boas. Je dis, je connais les difficultés de mon club.
Toi, tu vas finir dire comme dans un grand club.
Si tu veux vraiment parler de sincérité, donc je suis Villas-Boas. Je connais les difficultés financières de mon club et il y a très peu de chances qu'on puisse se renforcer. Et je vais tout faire pour convaincre la plupart des joueurs de rester. L'année prochaine, on sait très bien que le calendrier va être comme ça. Je préfère le dire, je suis très sincère. Si j'ai l'offre d'un club ambitieux, il y a de fortes chances que je parte. En tout cas, je me mettrai à la table des négos avec mon président pour voir si je pars ou si je reste.
Tu es fou de dire ça, tu peux jamais dire un truc pareil, t'es mort.
Eh ben oui, vous parlez
grave erreur de com.
Ah, vous parlez de sincérité ou pas? Vous voulez parler de sincérité?
Ouais, mais ça, il le pense pas, c'est pas vrai. Lui, il est bien à Marseille.
Eh ben alors donc.
Il a dit, moi je suis bien à Marseille, je vais jouer la Ligue des Champions, je cherche pas ailleurs, j'ai un groupe solide et une base avec laquelle je veux continuer.
Finir parce que lui il a parlé pendant une demi-heure. Moi vous me demandez de jouer à Villas-Boas pendant 30
secondes. Parle depuis une demi-heure.
Je continue. Mais je suis motivé pour aller la jouer. Il y a des clubs qui la jouent la Ligue des Champions avec 50
80 millions et qui font des très bons matchs, qui ne sont pas ridicules, qui se battent, et il y en a même parfois.
L'Atalanta 90 millions de budget
à sortir
cette année,
de la poule comme l'Atalanta l'année dernière.
90
on va jouer à fond et on va y aller. Mais en aucun cas.
Et tu finis, allez l'OM, vive la République, vive
exactement.
La France.
Exactement. Mais en aucun cas, je pleure en disant déjà, on va pas avoir de moyens, on va pas avoir ceci, on va pas cela, ou comme a fait Julien Stéphan à Rennes. La communication que vous appelez communication sincère, machin, bon. Ça n'est que de la com.
La conclusion de tout
c'est
ça,
du bricolage,
c'est
il n'y a aucune sincérité. Moi, la com, c'est pour moi, je n'aime pas. Ce que je veux, c'est la sincérité.
Bah, la sincérité, ouais, peut-être qu'il est sincère, parce que Daniel, regarde.
Arrêtez,
il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Sinon, on n'aura pas le temps d'arrêter
de croire. Moi, écoute, moi, Village Boas, depuis le début, il m'a surpris à plein de.
Il est excellent. Je l'adore.
Exactement.
Mais au moment de finir la saison, il n'est pas exactement comme j'aimerais.
Tu peux avoir le doute. Toi, tu penses que non. Moi, j'ai le droit de penser qu'il est sincère et que si jamais. Jamais demain, ou quand il se verra avec le président Hérault lui dit, écoute, nous, on te garantit rien, les départs, il n'y aura pas d'arrivée, et tout ça. Je suis persuadé qu'il est tellement sincère qu'il dira, bah ok, écoute, je me barre.
C'est fini, Florent, merci, donc vous l'avez retenu.
Moi, merci les amis.
Supporter de l'OM.
Et avec le budget et les joueurs, on va donner le match.
Vous promet du sang et des larmes, on verra s'il a raison ou pas.
Exactement, mais vous voulez la sincérité. La sincérité,
c'est ce qui est bien, c'est qu'on connaît déjà le classement de l'OM la saison prochaine.
Flo,
merci Flo, en tout cas. Merci, stop, c'est fini.
Je dois ajouter une
phrase.
Le problème de l'OM...
Tu vas râler parce qu'on n'a pas assez de temps pour parler dedans.
Le problème de l'OM depuis des années... c'est de pas voir la situation telle qu'elle est, mais de voir la situation telle qu'elle aimerait qu'on soit en raison de son histoire. C'est une erreur. Je le dis depuis des années.
Dans quelques instants, on parle de Nantes. Merci Flo. L'intégralité de l'interview sur rmcsport.fr, hein, bien sûr, supporter de l'OM, si vous voulez en savoir encore plus. N'hésitez pas, dans quelques instants, nous, on parle de Nantes dans l'after. À tout.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rotten, Laure Le Payeur, Daniel Riolo. On va parler de Nantes. Pourquoi ? Parce qu'en plus de la théorie du Las Boas, aujourd'hui, Christian Gourcuff s'est exprimé. Il dit pas mal de choses. Il parle de l'avenir de Nantes. Il explique d'ailleurs qu'il attend avec impatience que l'option de Moses Simon soit levée. 5 millions d'euros. Il appartient à Levante. Voilà, meilleur buteur et passeur du FC Nantes. Donc il dit, j'espère que ça va vite se faire. C'est dans l'air du temps en tout cas. Mais moi, j'en doute pas. Voilà, il promet des jeunes du centre de formation pour la saison prochaine également qui vont intégrer l'équipe. Et il veut de la stabilité dans son effectif. Après, il dit quand même des trucs... sur la reprise. Il dit moi je regrette qu'il n'y ait pas une décision. En fait, lui, c'est assez original ce que dit Gourcuff. Il fait un reproche à l'UEFA. Depuis quelques jours, en fait, on parle du Premier ministre, de la Ligue et tout. Lui, il dit non, mais pour moi, c'est l'UEFA. C'était l'UEFA de venir et de dire on prend une décision européenne et nous, l'UEFA, on dit soit on arrête tout, soit tout le monde reprend. Mais il fallait une unité européenne, c'est ce que dit Gourcuff. Alors après,
l'UEFA l'a fait plus ou moins ça.
Mais après, là, mais le problème c'est que Christian Gourcuff, ça part d'une bonne intention de sa part, mais il oublie qu'en fait l'UEFA n'a pas le final cut, quoi, n'a pas la décision finale.
Non mais
parce que si un gouvernement, un État dit on joue plus,
autant je trouve que la com de l'UEFA, comme beaucoup de présidents, ils se sont précipités. Au début du confinement, à essayer de trouver des dates, à essayer de finir en se donnant des dates. Il faut qu'on finisse avant fin juillet, reprendre à partir de fin juin. Tu vois, ils avaient donné ça. Et puis après, ils ont vu comment ça se déroulait dans les pays. Ils ont dit bon, non, les clubs, ils arriveront pas à reprendre, les championnats non plus. Bon, on va repousser au mois d'août. Et puis on verra bien. Et puis là, ils ont figé les dates du mois d'août, du moins début août jusqu'à la finale fin août. Mais donc ils ont fait leur boulot sur la suite, même s'ils se sont déchirés, même si, comme tu dis, ils n'ont pas le pouvoir de décider pour chaque pays, ils ont fait leur boulot. Là-dessus, je pense qu'il est...
Jérôme, tu ne penses pas qu'à un moment donné, l'UEFA aussi, ils auraient pu être facilitateurs justement pour qu'il y ait une uniformité sur l'ensemble des championnats, essayer de s'accorder pour essayer de reprendre en même temps, pour pas qu'il y ait de décalage.
Ouais, mais regarde,
tu vois, à un moment donné, moi j'aurais aimé que l'UEFA joue ce rôle entre guillemets de médiateur, pour essayer que tout le monde s'accorde, parce qu'aujourd'hui, ça y est.
Attention, Daniel, ton micro n'est pas ouvert.
Les championnats domestiques ne sont pas réglés par l'UEFA, alors. Chacun.
Non, je dis pas que c'est eux qui doivent régler
ces compétitions. Déjà, qu'ils n'ont jamais réussi, à part
comment dire, gérer la Coupe d'Europe et la façon dont tu y participes, tu y joues, c'est tout ce que règle l'UEFA. C'est pour ça que par ailleurs, chose également a priori intéressante dans l'interview de Gourcuff, c'est ce que j'entends à chaque fois dans énormément de raisonnements de gens qui veulent jouer les intelligents et les futés, de dire il faut revoir les valeurs du football, trop centré sur l'argent, il faut mettre le salary cap, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non seulement...
Et lui, il ne parle pas de salary cap, hein, attention. Hein.
Je crois qu'il lui fait une allusion.
Lui, il dit il faut en tirer les conséquences,
des masses salariales.
Il faut une nouvelle forme d'économie, réelle, il dit, voilà. Et il dit que la DNCG ne joue pas son rôle comme elle devrait le faire. Il dit, il y a 20 ans, la DNCG, en gros, était beaucoup plus dure qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a une tolérance. Et ça, voilà, d'accord. C'est ce que je dis. Il ne faut pas que cette tolérance soit acceptée comme
mais
ça.
Mais le truc, d'abord, qu'on oublie toujours en permanence, c'est que ça fait 40 ans qu'on entend les mêmes histoires, que historiquement, ça a toujours existé, ces disparités. Je rappelle juste qu'au début des années 80, Saint-Etienne s'est fait choper pour une caisse noire, que les comptes pour filer de plus d'oseille aux joueurs, pour garder les joueurs, pour réussir à être compétitif, tout le monde a baigné là-dedans. Même si c'était du bricolage, on peut faire historiquement... Echter au PSG, Rocher à Saint-Etienne, bon, Tapie, on n'en parle même pas, Baize à Bordeaux, re-Bordeaux quelques années plus tard. Enfin, et effectivement, la régulation, il faut la souhaiter et l'appeler de nos voeux. Mais dans un contexte concurrentiel, au niveau, je parle même pas de français, parce qu'en français on pourrait, mais on n'y arrive même pas. Mais si tu élargis au niveau européen, tu n'as même pas l'harmonisation fiscale. Qui fait toujours pleurer nos dirigeants en disant « Ouais, mais eux, ils payent moins d'impôts, ils payent... Oui, » Parler de tout ça, moi, je veux bien, c'est génial autour d'une table de jouer les...
principale, c'est les droits télé,
de jouer les intelligents de salon et tout ça.
Soit, mais de toute façon, bon.
Si, au niveau européen, tu ne peux déjà absolument pas envisager un salary cap, tu ne peux pas réguler, encore, le fair play financier a fait des merveilles. Rappelez-vous quand même qu'à chaque fois qu'on parlait du fair play financier que nous on a défendu, le nombre de gens qui nous sont tombés dessus en disant ça va exploser devant la Commission européenne, il y avait des menaces de tous les côtés pour faire sauter ça, qui était la bonne idée quand même de Michel Platini. Donc chacun en fonction de son club quand il voulait pas se faire choper. Et disait, ah ben non, mais c'est bien, ou c'est pas bien, ou c'est ceci, ou
après,
c'est cela.
Après, Gourcuff, il défend ses idées, écoute.
Il défend ses idées.
C'est difficilement applicable, combat, en effet, de façon
le
concrète.
Le seul combat qui peut être mené, c'est celui au niveau européen. Sachant qu'ensuite, si l'UEFA fait ça, de toute façon, devant la Commission, tu peux le faire tomber.
Oui, en plus.
Donc c'est,
de toute façon, c'est.
Pour moi, ce sont un petit peu des paroles en l'air qui, bon.
Alors, par ailleurs, il a supporter nantais, sachez-le, il a mis en place son petit plan de reprise, Gourcuff. Alors, parce que lui se pose la question de l'état physique de ses joueurs quand il va les retrouver. Donc, il dit moi, je pense qu'il nous faudra minimum 8 semaines de préparation.
On disait, hein.
Voilà, donc les Nantais, ils ont prévu la reprise au 15 juin. Là, c'est à plus de 8 semaines, en l'occurrence. Pour aller jusqu'à fin août.
De toute façon, c'est physiologique, du moins, quand t'as t'as joué et je me suis un peu chopé avec Eric Dimeco quand jeudi dernier quand il disait ouais mais attends c'est comme si l'arrêt c'est par rapport à une blessure tu peux des fois c'est arrivé d'être blessé 2-3 mois. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui en effet ton corps, il faut le remettre en place pour déjà qu'il accepte faire autant de la charge d'efforts, la charge de travail, et puis surtout après il y a un tout, c'est psychologiquement, il y a tout à remettre en place. Donc oui, ça va être très long pour récupérer un niveau digne de ce nom et pour pas avoir ça. On en revient toujours au calendrier, à essayer de mettre en place au plus vite là les deux finales au mois d'août, la Ligue des Champions, les trucs. Pour moi, c'est en effet, il faut que les clubs arrivent à se réentraîner. Après, est-ce qu'ils auront le pouvoir de le faire? Est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'on leur donnera la possibilité de le faire? Ça, c'est encore, il y a un gros point d'interrogation. Parce que tu peux leur dire le 15 juin, tu reviens et tu t'entraînes individuellement, comme c'est le cas dans certains pays. J'ai vu, mais t'as vu les entraînements qu'ils font? Il y a des équipes à l'étranger qui ont ouvert. Mais franchement, c'est comme si t'allais courir dans la forêt. Oui. C'est la même chose. Hein.
C'est vrai que c'est un peu dur. Bon, oui. On fera le point. En Europe, ça a encore un peu bougé aujourd'hui. Évidemment, tous les jours, il y a des mouvements divers et variés sur la reprise. Je voulais juste finir sur les clubs français après Gourcuff. Les gars, pour vous dire quand même que Rudy Garcia est au soutien de son président, puisqu'il a donné une interview au LTV.
Étonnant.
Et il a dit à Rudy Garcia, il était urgent d'attendre.
Oh, bah oui.
Eh oui. Il fallait patienter alors, avant de trancher.
Alors que dans l'interview où il a été avec le groupe WhatsApp des
enfants. Ouais.
Non mais les mecs. Non,
il est bon.
Je te jure, mais toi, quand vous parlez de com' et
tout. L'Espagne et l'Italie ont été plus touchés que nous.
Jour, la sincérité et eux, ils veulent reprendre. Ouais, ça marchera plus facilement.
Bon, ben bon, là,
dites juste ce que vous pensez.
Non, mais là, on parle juste de com' de Rudy Garcia. Alors déjà que je veux bien.
Oui, il n'est pas élaboré.
Lui. Alors, non ?
Non, sinon.
Ah oui, non.
Sinon, j'ai aussi Cagliazzo, là. Qui s'est exprimé.
Lui aussi, il veut pas faire.
Pas dit quoi, vous savez, je ne sais même pas si on rejouera en 2020, dit Cagliazzo.
Ah, oula. Voilà.
Il dit, ça sert à rien de se fixer les échéances. Même le meilleur scientifique du monde, il peut pas vous l'assurer.
Ah, bah oui, voilà.
Donc, là, c'est pilotage à vue, dit
Cagliazzo. Même le pilotage.
Et alors. Il suit son président, son donc, co-président, Romeillet. Il dit, personne n'a envie de jouer à huis clos. Imaginons la finale de la Coupe sans spectateurs. Ça fait froid dans le dos, dit Cagliazzo.
Ça n'a rien à voir, mais je reviens juste sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Gourcuff. Je ne sais pas ce qui m'y a fait penser là. Mais la fameuse histoire de la régulation du monde meilleur et du monde nouveau, je le répète pour la millième fois, ça peut paraître absolument paradoxal, mais le seul contexte où ça marchera, c'est la ligue fermée, ou semi-ouverte, ou semi-fermée. Le seul contexte où tu pourras mettre un salary cap, où tu n'auras plus les dérives de masse salariale.
Tu crois que les mecs vont accepter un salary cap? Tu crois que le Real demain ou la Juve vont accepter un salary cap?
Dans le cadre d'une ligue de ce genre-là, sachant.
Eux, ils voudront la ligue fermée, mais sans salary cap, en faisant ce qu'ils veulent.
Sachant les revenus que ça va générer, je pense que.
Non, mais là, c'est. Salary cap, mais le salary cap, il ne sera pas à 20 000 euros par mois.
Mais ce sera que.
Oui, c'est sûr que si ton salary cap, c'est base salariale, 1 milliard par mois.
Gilbert, le seul contexte dans lequel ça pourrait être accepté par les gens, c'est celui-là. Dans un contexte comme aujourd'hui, ça ne sera accepté par personne.
Aujourd'hui,
je ne te dis pas que ce sera accepté, j'ai dit le seul contexte dans lequel ça peut être accepté.
D'ailleurs, la liste des propositions infaisables en l'état depuis quelques semaines, elle est longue comme le bras.
Pourtant, il y a un tas de gens, là, tu lis les journaux, dans notre pays qui est le roi de « on serre le cul de tout le monde et on fait de la démago », chaque jour, je lis 4 interviews. Ah, nous attendons le monde meilleur. Nous attendons que tout change. Le monde ne sera plus jamais comme avant après cette crise.
Alors que toi, t'attends un monde pire qu'avant.
Franchement. Non, mais je crois pas à ceux qui veulent l'améliorer. Je crois pas à ceux qui veulent l'améliorer en racontant des conneries du matin au soir.
Dans quelques instants, notre débat tactique. Alors, une info importante également concernant l'OGC Nice. Les gars, Nice qui, quand même, selon toute vraisemblance, il faudrait vraiment un concours de circonstances incroyables, devrait jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine. Nice se sépare donc de Malang Sarr, qui est en fin de contrat. Là, aujourd'hui, on apprend que Nice ne conserve pas Ounas, qui était prêté, et qui rentre à Naples, en l'occurrence.
Donc, ils n'ont pas les moyens de se le payer, alors que Ineos, ça devait mettre un max de.
Ou alors,
c'est
la stratégie.
Non, mais je crois qu'ils l'ont justifié en. Ouais. Parce que ils n'ont pas donné satisfaction, je crois que c'est ça.
Okay, pardon,
Moussa Ouagé, prêté par Barcelone, il rentre à Barcelone. Et Durmisi, celui-là, on ne l'a pas vu beaucoup, qui appartient à la Lazio, retourne à la Lazio. Donc voilà, pour dégraissage à Nice, quand même, assez important.
Bah, dégraissage, ça ne rentre pas dans leur plan sportif. Là, franchement, les noms, à part le dernier, là, qui n'a pas beaucoup joué.
Non, mais Malang Sarr, c'était quand même un titulaire indiscutable.
Ouais, même Ounas, moi, je le trouvais intéressant.
Ouais, mais bon, je pense que.
On peut trouver plus intéressant.
Après, il s'est blessé aussi, Ounas. Sarr, c'est un peu plus. Mais je pense qu'ils ne se sont pas mis d'accord, tout simplement. Ouais. Et puis, qu'il y avait une stratégie de la part de l'entourage et du joueur, peut-être d'aller voir ailleurs. Il fallait le prolonger avant, c'est toujours pareil. Hein. T'es un jeune joueur. Souvent, de toute façon, on le redit, Gilbert, mais c'est souvent le cas quand t'es formé dans un club. Même si tu gravis les échelons, t'arrives à être un titulaire dans l'équipe professionnelle, tu te retrouves financièrement en dessous d'une recrue qui va pas jouer. Et je pense que Malang Sarr, il a pas trouvé d'accord là-dessus. Et c'est plus là-dessus. Après, maintenant, il va trouver un club lui, hein, sans problème.
Oui, je pense qu'effectivement, Malang Sarr, il n'y a pas trop de soucis. Tiens, quelques messages. Alors, pas mal de messages sur notre débat sur l'OM tout à l'heure. Et puis, un message qui revient beaucoup quand même. Daniel, passe un peu le micro aux autres, s'il te plaît, nous dit-on. Ouais. Je vous laisse méditer là-dessus. On se retrouve dans quelques instants pour parler des coups de pied arrêtés avec Julien Beaumont. À tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot.